Chapitre 2. La descente dans le son. Le trajet dans la Lincoln Town Car Noire n'était pas un simple transit. C'était un tampon temporel soigneusement élaboré, une chambre de décompression mobile entre la tour de verre stérile et la soupe chaotique de la ville. À l'extérieur, la 6e avenue bouillait sous un misérable cocktail new-yorkais de neige fondue, d'échappement gris et de la physique frénétique et non régulée des embouteillages. À l'intérieur, l'épaisse isolation acoustique de la cabine m'offrait le sanctuaire dont j'avais besoin. J'avais l'impression d'être à l'intérieur d'une boîte en velours doublé de cuir, très coûteuse. Je m'appuyais contre le cuir frais du siège, gardant les yeux fermement clos, pour préserver ma puissance de calcul, laissant le bourdonnement rythmique à basse fréquence du moteur. V8 régulait mon rythme cardiaque, pendant que j'organisais mentalement les polygones de l'emploi du temps du lendemain en piles nettes et gérables. « Alors, dis-je, allons-nous faire un débriefing sur le compte Lehman pendant le dîner ? Ou m'emmènes-tu à la maison pour regarder le parc et faire comme si le monde n'existait pas pendant 6 heures ?» Carmen était occupée à vérifier son reflet dans son poudrier, fredonnant un air qui défiait activement les lois du rythme mathématique. Une mélodie qui semblait changer de signature rythmique toutes les 3 mesures juste pour me contrarier. Elle referma le poudrier d'un clic métallique sec, qui résonna de manière inconfortable, comme un pistolet qu'on arme dans l'espace confiné. « Ni l'un ni l'autre. Nous allons au Garden, » annonça-t-elle, une lueur malicieuse et prédatrice dansant dans ses yeux sombres. Mes algorithmes de protection interne commencèrent instantanément à afficher des codes d'erreur en lettres rouges sur mon tableau de bord mental. Le Madison Square Garden. Carmen, je ne suis pas d'humeur à regarder des hommes en sueur défier la gravité pour le sport. J'ai des tableurs qui ont besoin de mon amour et de mon affection. J'ai des données qui se sentent seules. Billet VIP, m'interrompit-elle, sortant des laissez-passer brillants et plastifiés de son sac comme un magicien révélant la carte de prestige qui clôt le spectacle. Knicks contre Bulls. Au bord du terrain. Premier rang, Adam. Considère cela comme une thérapie de choc surprise pour ton système. Un peu de réalité à haute tension pour dépoussiérer ton processeur. Carmen, je n'ai pas besoin de thérapie, j'ai besoin de données prévisibles et d'une pièce où l'air ne vibre pas. Protestai-je, ma voix se serrant, tandis que la voiture tournait vers la 33e rue. Tu passes trop de temps dans le silence, Adam, répliqua-t-elle, pointant un ongle manucuré vers moi avec l'autorité d'un juge. Parfois, on a besoin de crier, juste pour vérifier qu'on a encore une voix. Sinon, tu n'es qu'une statue très chère qui en sait beaucoup sur les taux d'intérêt. Tu aimes me torturer, n'est-ce pas? Tu sais que les foules sont des variables massives et non régulées. Je ne peux pas contrôler 20 000 personnes. Je ne peux même pas contrôler le type qui vend des hot-dogs tièdes. Et crois-moi, j'ai essayé de négocier la consistance thermique de sa moutarde. Je me tournai vers elle, mes mains gesticulant avec une énergie soudaine et frénétique. L'enfer, je ne peux même pas te contrôler toi, alors que tu es censé travailler pour moi. Je suis ton patron, Carmen. J'ai un bureau en acajou et un sceau d'entreprise. Dans la plupart des sociétés civilisées, l'homme au sceau décide s'il est soumis ou non à un stade plein d'étrangers hurlants. « C'est bien là le point, Votre Altesse, » chuchota-t-elle, se penchant et déployant ce surnom sarcastique et hautement restreint pour adoucir le coup. Elle ne ressemblait pas à une employée, elle ressemblait à un dompteur de lions qui avait entendu ce discours maintes fois auparavant. « Fais-moi confiance. J'ai tracé l'itinéraire avec la précision d'un vol de diamant. » Je nous ferai entrer sans que tu ne frôles une seule âme malpropre. Tu seras dans une bulle de luxe, je te le promets. Maintenant redresse ta cravate. Tu perds ta gravité impériale. Matrice biologique. Fidèle à sa parole, Carmen navigua dans le labyrinthe des entrailles de la reine, avec la précision tactique d'un général 4 étoiles, envahissant un petit pays désorganisé. Nous contournâmes la cohue étouffante de la foule en admission générale, nous glissant par une entrée VIP privée, réservée à l'élite de la ville. Ces gens qui préfèrent que leur basket soit servi avec un accompagnement d'intimité. Carmen marchait quelques pas devant moi, ses talons claquant un rythme confiant et agressif contre le béton, supposant que j'étais juste derrière elle, amarré à son sillage. Mais je prenais déjà du retard. Les bases de la musique d'échauffement n'étaient pas seulement audibles, c'était un événement sismique. C'était une force physique vibrant à travers les semelles en caoutchouc de mes chaussures italiennes, secouant ma cage thoracique comme une clôture en bois dans un ouragan. Alors que nous poussions les lourdes doubles portes menant au terrain, la physique de la pièce me brisa. Le choc fut instantané. Un mur de son physique est écrasant. La clameur d'avant-match de 20 000 personnes et le Larsen hurlant et déformé du micro de l'annonceur n'étaient pas des bruits, c'était un mur pur et non régulé de pression acoustique. C'était une onde de choc atmosphérique qui fractura violemment le verre délicat de mon équilibre interne. Mon souffle se coupa. L'instinct ancien, primal et totalement étranger à Wall Street, détourna mon cerveau. Je fermai les yeux et plaquai mes mains sur mes oreilles, appuyant jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches, désespéré de sceller ce monde hostile. Mon corps commença un pivot lent et paniqué de 180 degrés alors que je commençais à marcher en cercle serré et erratique, un bug dans la boucle. essayant de trouver une seule coordonnée spatiale silencieuse à l'intérieur de ma propre tête. J'étais un costume à 3 000 $ enveloppé autour d'un noyau de terreur pur et sans mélange. Au centre du terrain, Carmen se retourna avec un large sourire de relations publiques, prête à jauger ma réaction. Son sourire s'évanouit lorsqu'elle ne vit que du vide, là où un titan de la finance aurait dû se trouver. Elle revint sur ses pas en courant, ses yeux fouillant le couloir avec une terreur croissante et frénétique. Soudain, elle me vit, un prodige de Wall Street, le lion de l'Atlas, tournant en rond avec les mains plaquées sur les oreilles, comme un enfant perdu dans un grand magasin. Je ne l'entendis pas crier mon nom, je me noyais dans des ondes sinusoïdales de bruit gris et les flashs aveuglants des lumières du stade. Elle revint en hâte, bousculant physiquement un garde de sécurité ahuri qui semblait sur le point d'intervenir. Elle me saisit fermement par la taille, jetant sa gravité contre la mienne pour ancrer ma géométrie tournante. Elle n'essaya pas de raisonner un système d'exploitation planté. Elle ne me demanda pas si j'allais bien. Elle me dirigea brusquement vers la droite, enfonça une porte anonyme. Un placard à balai rempli de serpillères, de cire à parquet industriel et d'une odeur d'ammoniac. Nous poussa tous les deux à l'intérieur et referma violemment la lourde porte. Le rugissement de la reine fut instantanément décapité. Je me tenais là, haletant parmi les seaux et les fûts industriels, tandis que les répliques de l'adrénaline secouaient mes os. Dans l'obscurité, Carmen entra dans mon cercle d'or, ce périmètre sacré de 15 cm d'espace personnel. Elle leva les mains et les posa doucement sur les miennes, les décollant de mes oreilles avec une pression ferme et constante. Elle fit glisser ses paumes sur mes joues, encadrant mon visage, et tira mon front vers le bas jusqu'à ce qu'il repose fermement contre le sien. La poigne douce. « Adam !» chuchota-t-elle, sa voix étant une fréquence étroite et de confiance coupant à travers le bruit gris résiduel. « Je suis là. Je suis le signal. Le reste n'est que du bruit. Tout va bien. Ouvre les yeux, Badawi. » Je forçais mes paupières à s'ouvrir. Ses yeux étaient d'immenses flaques lumineuses d'inquiétude, humides de larmes non versées. C'est alors que je compris la poigne douce. C'était le rituel exact que ma mère déployait dans le riad de Marrakech quand le monde devenait trop lourd à porter pour mon jeune esprit. C'était la transmission silencieuse d'un message « Je suis là » et j'entends ton vacarme interne. Carmen canalisait sans faille, peut-être instinctivement, ce même code maternel marocain ancestral. Coupant à travers l'odeur chimique et âcre de la cire industrielle, il y avait son parfum spécifique. Cette élégante architecture de jasmin, d'ambre chaud et de mousse. Il remplit mes poumons, m'ancrant à nouveau au monde physique. Le code redémarra. Le lion de l'Atlas revint en ligne. Je réajustai ma cravate, le masque du génie de la finance glissant doucement pour reprendre sa place, cachant le garçon tremblant qui venait de tournoyer dans le noir. Le silence du placard était absolu. Un vide de velours qui permit à mon pouls de ralentir, passant d'un staccato frénétique à un bourdonnement rythmique. Carmen ne bougea pas. Ses pouces continuaient leur tracé lent et rythmique sur mes pommettes, son contact étant la seule chose m'empêchant de dériver à nouveau dans le bruit gris. Elle scrutait mon visage, ses yeux toujours brillants de cette humidité terrifiante et non versée. Pour elle, je n'étais pas un titan, j'étais une défaillance système qu'elle devait redémarrer manuellement. « Adam » chuchota-t-elle d'une voix épaisse et fragile. « On s'en va. On n'est pas obligé de faire ça. Le Jumbotron n'a pas besoin de te voir et les Nyx perdront tout aussi efficacement sans ta supervision. » Partons, tout simplement. La voiture est encore dans le tunnel. Je demanderai à Stanley de nous emmener directement à Central Park West. Tu pourrais être dans ton fauteuil, dans ton propre silence, dans 20 minutes. Je trouverai une station de radio qui ne diffuse que des parasites et des solos de violoncelle pour le trajet. Personne ne saura jamais que nous étions ici, s'il te plaît. Je vais bien, Carmen, dis-je, bien que les mots semblent fragiles dans ma gorge. Ne fais pas le héros, Adam. Pas ce soir, répliqua-t-elle, sa prise se resserrant, son front toujours pressé contre le mien. « Tu as passé les 14 dernières heures à calculer la trajectoire de la richesse mondiale. Tu n'as pas besoin de passer les 3 prochaines heures à calculer la vitesse d'une balle orange, juste pour prouver à ces gens que tu es normal. C'est un placard à balai. On peut rester ici jusqu'à ce que le monde se calme. Et ensuite on rentre. Personne ne compte les points. » Je la regardais, voyant la douleur sincère dans son expression. Puis, mon regard dériva vers les laissez-passer VIP brillants qui dépassaient de son sac. La preuve physique du bain de sang politique qu'elle avait dû traverser pour les obtenir. Carmen n'avait pas seulement réservé ses places, elle s'était probablement livrée à une partie d'échecs corporatifs de haut vol, avec 3 directeurs généraux différents, et un requin légendaire des fonds spéculatifs, qui considérait ses places au bord du terrain comme son droit de naissance. Elle avait échangé des faveurs, fait levier sur des secrets, et exercé plus de pression stratégique qu'un coup d'état militaire, juste pour s'assurer que je sois vu au bon endroit au bon moment. Elle s'était battue pour cette soirée, et elle était actuellement prête à tout abandonner, à se replier sur CPW et passer sa nuit à me regarder respirer. Simplement parce que je ne pouvais pas supporter un haut-parleur. Je levai les mains, prenant doucement ses poignets, pour écarter ses mains de mon visage. Je lui adressai un petit sourire sec, le premier signe que mon processeur était de retour en ligne. « Non, » dis-je, ma voix retrouvant enfin son registre plat et souverain. « Nous restons. » La ligne de base est établie et je suis calibré. De plus, je refuse que ta campagne extensive de chantage administratif soit vaine. Je sais que tu as pratiquement dû menacer la vie du premier-né d'un associé junior pour obtenir ses laissez-passer. Ce serait statistiquement irrespectueux, envers ton génie tactique, que de laisser sa victoire s'évanouir dans un seau à serpillière. Carmen ne rit pas, mais elle laissa échapper un long soupir frémissant, ses épaules s'abaissant enfin d'un centimètre. Elle essuya une larme égarée du revers de la main. Son masque professionnel commençant à se recoudre, bien que ses yeux restent sur leur garde. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, sa voix planant toujours dans cette fréquence privée. « Parce que, si tu recommences à tourner, j'assomme le garde de sécurité et on détourne la Lincoln. »« J'en suis certain, » répondis-je, ajustant mes boutons de manchette et sentant le masque impérial familier du lion de l'Atlas reprendre sa place. « Ouvre la marche, Carmen, mais reste près de moi. Si une mascotte m'approche, je ne pourrai être tenu responsable de l'incident diplomatique qui s'ensuivra. » La leçon de physique de McEnroe. Nous atteignîmes nos places au bord du terrain, directement à côté de la légende du tennis John McEnroe. John semblait être au milieu d'une guerre privée avec les arbitres, même si le match n'avait pas encore atteint son apogée. Au quatrième quart-temps, un silence lourd et anticipatif enveloppa le Garden avant un lancer franc critique d'Alan Houston. Ayant besoin d'une interface logique pour masquer les parasites internes de la respiration de la foule, je me penchai vers McEnroe, dont les yeux étaient fixés sur le panier, avec l'intensité d'un homme sur le point de contester un jugement de ligne de 1984. « John !» chuchotai-je, ma voix coupant à travers l'immobilité. La mécanique ici est fondamentalement défectueuse. McEnroe se figea, un bretzel à moitié mangé planant à quelques centimètres de sa bouche comme un astéroïde suspendu. Il me lança un regard de côté capable de décaper la peinture d'une porte de vestiaire. « C'est un tireur à 90%, mon pote. C'est une machine. Laisse-le respirer. Ce n'est pas le tir. » Continuai-je d'un ton monocorde et impassible, qui suggérait que je parlais de la pluie et du beau temps, plutôt que d'un match à enjeux élevés. « C'est l'observation. Vous avez 20 000 personnes projetant un besoin de dopamine à haute vitesse sur une sphère en cuir. Selon l'effet de l'observateur en mécanique quantique, en observant la balle aussi intensément, nous sommes essentiellement en train de réduire sa fonction d'onde. Statistiquement, nous sabotons tous actuellement sa mémoire musculaire avec notre anxiété collective. Nous rendons le panier plus petit rien qu'en le regardant. » McEnroe tourna lentement la tête, me plissant les yeux comme si j'étais un bug parlant dans la matrice. Mi-génie, mi-lunatique. Un sourire hébété et rauque fendit son célèbre visage marqué par les années. « Petit, » croassa John, pointant le bretzel taché de moutarde vers moi. « J'ai passé 40 ans à hurler sur des arbitres pour des choses qui sont réellement arrivées et c'est officiellement la chose la plus perchée que j'ai jamais entendue. C'est un match de basket, pas un laboratoire du MIT. Pris simplement pour que cette foutue balle entre dans le trou et arrête de t'inquiéter pour les molécules. Avant que je ne puisse expliquer que la prière ne possédait aucun mécanisme vérifiable pour corriger la décohérence quantique et que la balle était en fait une collection de cordes vibrantes, Carmen intervint. Elle avait repéré la caméra massive du Jumbotron, se verrouillant sur notre rangée comme un missile à tête chercheuse. « Ne fais pas attention à lui, John, » rayonna-t-elle, son rire dégageant une énergie de couple puissant parfaite pour l'objectif. Elle posa une main d'ancrage sur mon épaule, me ramenant au monde tridimensionnel. Le lion de l'Atlas essaie d'utiliser la physique pour expliquer pourquoi il est nerveux. « Adam, arrête de suranalyser la balle et regarde simplement les hommes courir. » Le surnom fit tilt. Les yeux de McEnroe s'écarquillèrent alors qu'il me reconnaissait après m'avoir vu dans divers galas de Manhattan où je restais habituellement dans les coins d'un air ténébreux. Il laissa échapper un rire sonore et aboyé qui attira l'attention des rangées environnantes. « Adam, Badawi. » « C'est vrai. J'aurais dû m'en douter, » s'esclaffa John en se rasseyant et en secouant la tête. « Il n'y a que toi pour transformer un match des Knicks en examen final à Harvard. Contente-toi des costumes, gamin, la science va nous coller une attaque à tous les deux avant la sirène. » Le match se termina par une victoire, bien que la probabilité statistique du tir final ait été fâcheusement basse. Alors que nous nous dirigeons vers la Lincoln, qui attendait à la sortie VIP privée, l'air froid et vif de l'hiver frappant mon visage comme une gifle de réalité, Carmen se pencha vers moi. « Tu as vu ça ?»« On est passé sur le grand écran pendant 3 secondes entières, » dit-elle son ton passant de la poigne douce du placard à celui d'un triomphe stratégique absolu. « Demain, Wall Street parlera plus de notre présence que des chiffres de clôture. Tu avais l'air d'un roi, Adam. » Un roi un peu confus, mais un roi tout de même. Puis, alors que le chauffeur ouvrait la lourde portière et que le sanctuaire de la cabine en cuir nous appelait, sa voix retomba dans sa fréquence privée et protectrice, avec une pointe d'avertissement persistant. « Et maintenant, savoure cette victoire, Adam, » dit-elle doucement, ses yeux rencontrant les miens. Parce que ton rendez-vous avec le médecin Hoffman demain matin ne sera pas aussi facile. Il se moque de tes fonctions d'onde, et il n'accepte certainement pas les bretzels comme excuse pour ta tension artérielle.